Avant la guerre, au temps de mon enfance, tous les vendredis, quand tombait la nuit, ma grand-mère Idis allumait les bougies pour dire la prière du Shabbat. Elle ne requérait la présence d'aucun membre de la famille, pas même celle de mon frère et moi. Je me glissais furtivement dans la salle à manger pour l'observer. Un bougeoir à l'argent noirci était posé sur la cheminée. Les flammes tressautaient dans le miroir. Le lustre au-dessus de la table était éteint. Je voyais ma grand-mère, la tête recouverte d'un châle blanc, balançant ses épaules au rythme de la prière en hébreu. Elle tendait ses mains grandes ouvertes vers la flamme et murmurait très vite à voix assourdie les paroles rituelles, comme un ruisseau à l'eau vive qui s'écoule. À la fin, elle s'inclinait, prononçait le « Omein » ultime et se redressait lentement. Comme elle m'avait vu dans la glace, elle me faisait signe de venir l'embrasser. Je me précipitais dans ses bras. Alors, elle prononçait sur ma tête une bénédiction. Elle souriait. Le fil de la vie se déroulait entre nous. À quoi songeait-elle en ces instants-là, dans cet appartement petit bourgeois de Paris où je suis né? Idis, ma grand-mère maternelle, était née en 1863 dans le Yiddishland, à la frontière occidentale de l'Empire russe. Elle avait connu la pauvreté, sinon la misère, des juifs des Chetotl, bessabariens. La prière du vendredi soir s'achevait par des remerciements au Seigneur qui lui avait donné du pain pour nourrir sa famille. C'était absurde dans sa condition actuelle, mais la formule la rassurait. Dieu veillait sur sa famille, en France, comme jadis en Bessarabie. Idis lui était reconnaissante de ses bienfaits, mais elle ne s'en étonnait pas. L'Éternel est juste, et Idis avait eu sa part d'épreuves sur cette terre, là-bas, en Bessarabie. Et ici, dans ce pays étranger, rien n'avait été facile pour elle. Aujourd'hui, ayant franchi son âge, je rêve à son passé qui est un peu le mien. Il m'émeut, mais j'en souris aussi, comme si un conteur d'histoire était assis devant moi et évoquait le destin de ma grand-mère, dans sa langue dont les accents ont bercé mon enfance. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Valentin Dedon et je suis ravi de vous retrouver sur Radio G pour un nouvel épisode d'Albertine, l'émission qui se souvient de nos grands-mères. De lundi par mois à 13h, en semaine impaire, ou quand vous le souhaitez sur radio-g.fr, on se souvient de nos grands-mères, avec une ou un invité. Idis, c'était le prénom de sa grand-mère. C'est aussi le titre d'un livre qu'il lui a consacré et dont je viens de lire un extrait. Livre paru en 2018, 6 ans avant sa mort à lui, à 95 ans, en 2024. Depuis, il a été panthéonisé, célébré, notamment pour son combat aboutissant à l'abolition de la peine de mort. Grand homme politique, socialiste, humaniste, Robert Badinter parle dans ce livre d'une source pure, d'un amour resté vif, d'un héritage grand-maternel décisif. Et si j'ai choisi ce livre et cette figure nationale, ce n'est pas par hasard, car je reçois aujourd'hui au micro de Radio G Sylvia Camara-Tombini, professeure des écoles, première secrétaire du Parti socialiste du Maine-et-Loire et élue de l'opposition à la ville d'Angers. Bienvenue Sylvia et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Albertine.
Merci, bonjour.
Sylvia, première question rituelle de cette émission, c'était quoi le prénom de tes grands-mères?
Alors mes grands-mères s'appelaient Carmen et Gabrielle et ce sont d'ailleurs mes deuxième et troisième prénoms.
Alors Carmen et Gabriel, toi comment tu les appelais? Parce que souvent nos grand-mères elles ont un surnom de grand-mère.
Alors nous c'était Mémé, les deux.
Les deux c'était
les
Mémé.
Les deux et c'est une tradition, mes enfants qui sont si très proches de leur grand-mère l'appellent aussi Mémé.
Voilà. Le Mémé a perduré même chez les
le
générations
Mémé
d'après.
Reste chez nous, voilà.
C'est beau parce que souvent, il y a une réinvention des petits, petits surnoms.
On est attaché au mémé. Ouais. Voilà, moi, il y avait mémé Carmen et mémé Gabriel.
D'accord. Alors, on peut peut-être essayer de partir à la rencontre de chacune de ces deux grand-mères. Donc, Carmen, c'est ta grand-mère maternelle, c'est
oui,
ça?
Oui, tout à fait.
Est-ce que tu peux nous parler d'elle, nous dire déjà un peu à quoi elle ressemblait?
Alors, Carmen, c'était une femme élégante, que je trouvais très belle, très gentille. Et une femme très, très en avance sur son mode de vie, sur ce qu'elle incarnait finalement, très moderne, je trouve. Un exemple tout bête, c'est que c'est une femme qui a eu 2 enfants toute seule, ce qui à cette époque était certainement assez, assez difficile à vivre, j'imagine. Mais en tout cas, dans sa famille, ça avait été très bien accepté. Et voilà, elle a été à la tête d'une famille recomposée à une époque où c'était vraiment quelque chose d'assez rare. Et elle était coiffeuse, elle avait un salon de coiffure Chemin des Gouronnières. Voilà, et là aussi, j'ai eu deux grands-mères qui étaient très actives. Et je pense que ça a aussi forgé quelque chose en moi.
Alors Carmen, cette histoire de famille recomposée, ça veut dire qu'elle s'est séparée d'un mari à un moment
elle
donné.
Elle a été mère seule, voilà.
D'accord. Elle a réussi à accomplir ça, à gérer ça dans un monde, dans un univers social, une époque où c'était pas très bien accepté. Tu sens que ça a construit un caractère. Il y avait un caractère derrière.
Très certainement. Oui, puis je pense qu'elle avait eu un papa qui l'a beaucoup accompagnée, encouragée, qui a joué un rôle paternel hein, dans la famille. Donc, mais oui, elle a vécu très très bien ce choix de vie qui a été le sien à un moment donné, d'avoir deux enfants à sa façon.
Et alors, on a entendu ce mot « chemin des Gouronnières » qui évoque tout de suite ce quartier d'Angers avec le stade aussi. On a un point commun aussi avec ce club d'NDC Notre-Dame-des-Champs qui est dans ce quartier. Donc, la famille est basée vraiment dans ce quartier-là, chemin des Gouronnières, depuis longtemps. Carmen vivait là.
Oui, complètement. Hein. Ma grand-mère, ma mère est née chemin des Gouronnières. Et mon père à Vrier, à quelques centaines de mètres finalement. Donc la famille est effectivement très très liée au quartier. Et le chemin des Gouronnières, j'en entends parler depuis toujours.
Et il était où le salon de coiffure?
Alors,
Carmen,
de coiffure, il existe toujours. Il est alors, au début du chemin des Gouronnières. Et auparavant, on avait retrouvé une photo. Elle en a eu un, avenue René Gagné. Voilà. Et ça s'appelait Chez Carmen. et ma mère y a travaillé d'ailleurs.
Tu as des souvenirs, toi, de ce salon? Comment il
était? Moi, non. Moi, je ne l'ai jamais connu. Ma mère, quand moi, je suis née, j'étais la dernière de la fratrie. On est cinq enfants. Ma mère, à ce moment-là, ne travaillait plus. Et ma grand-mère ne travaillait plus non plus. Et ensuite, ma mère est devenue fleuriste. Donc, un tout autre parcours de vie.
Alors, quel souvenir tu as avec Carmen? Est-ce qu'il y a des moments comme ça qui te restent, des motifs un peu récurrents d'elle?
Alors, Carmen, c'était les mercredis, puisque le mercredi, elle venait passer la journée avec nous, donc c'était un rituel. Le mercredi, c'était avec elle et on passait des moments ensemble, de la vie quotidienne. Elle mangeait avec nous et on passait des très bons moments. Il y avait une complicité qui s'était nouée entre elle et ses enfants et l'ensemble de ses petits-enfants, puisqu'elle en avait quelques-uns. Les souvenirs aussi, c'est d'aller dormir chez elle à l'époque où elle habitait, quand moi j'étais enfant, boulevard Albert Camus. Et le souvenir d'aller dormir dans sa résidence et de passer des temps en tête-à-tête avec elle.
Alors, qu'est-ce qui se passait pendant ces moments avec elle? Qu'est-ce qu'elle te disait? Sa voix? Qu'est-ce que vous partagiez? Est-ce que tu as des souvenirs forts?
Alors, au fond, avec Carmen, probablement peut-être moins qu'avec Gabriel, dont on parlera aussi tout à l'heure, puisque alors Carmen est décédée, j'avais 18 ans, et on vivait beaucoup de moments, on discutait beaucoup, elle aimait beaucoup jouer, donc ça nous arrivait de jouer ensemble. Voilà, mais c'est peut-être plus avec Gabriel que j'avais ces temps de discussion. Et voilà.
Des discussions plus profondes,
peut-être. Oui, peut-être, complètement.
La vie,
c'était pas du tout le même rapport, mais c'était tout à fait complémentaire.
D'accord. Est-ce que du coup, tu peux nous parler un petit peu de Gabriel, de ces discussions, sur quelle thématique?
Alors, Gabriel, effectivement, que j'ai connu un peu plus longtemps. Alors peut-être déjà, ce qui est intéressant de dire pour moi, c'est que je n'ai quasiment pas connu mes grands-pères. Donc, mes grands-mères ont tenu un rôle extrêmement important dans ma vie. Et j'ai eu la chance de les avoir malgré tout assez longtemps, même si ce n'est jamais suffisamment. En tout cas, suffisamment pour avoir des souvenirs avec elle et des beaux souvenirs. Donc, Gabrielle, elle habitait sur le chemin entre mon école, ensuite mon collège et mon lycée et la maison, puisqu'elle habitait, elle était, sa maison touchait au magasin de l'entreprise familiale. Et de ce fait, on y allait très, très souvent. En rentrant de l'école, je m'y arrêtais avec mes parents, on s'y arrêtait. Quand c'était les vacances, tous les matins, c'était un rituel, tous les matins, ma mère s'arrêtait boire un café en rue de la Traquette, puisque c'est, voilà, c'était le notre rituel, tu vas où, rue de la Traquette, boire le petit café chez Gabriel, et ça c'était tous les matins pendant les vacances, et pour mes parents c'était tous les jours, et c'était vraiment un lieu où on se retrouvait, tout le monde se retrouvait très facilement. Et ça, j'y ai pris cette habitude-là. Et plus tard, à l'adolescence, à l'époque où on se cherche, on cherche à se construire, je m'arrêtais beaucoup après le lycée. En rentrant, j'allais acheter une petite pâtisserie rue Saint-Lazare et je faisais un petit détour pour aller chez elle. Et on mangeait ensemble notre pâtisserie, on discutait ensemble. Et effectivement, ces discussions ont beaucoup construit l'engagement qui a été le mien après. Puisqu'elle me parlait de sa vie, de son enfance, de sa rencontre avec mon grand-père italien et de tout ce que ça a pu impacter aussi à une époque où le racisme vis-à-vis des Italiens était très important. Et donc, toutes ces discussions, la difficulté liée à la pauvreté aussi à laquelle ils ont été confrontés pendant toute une partie de leur vie, ont vraiment construit mon engagement et mon envie d'être utile. Et notamment... Tu parlais des petites phrases qui peuvent nous rester en tête, mais ma grand-mère Gabrielle me disait souvent, parce qu'elle me parlait beaucoup de mon grand-père, elle aimait beaucoup parler de ses timios, et elle me disait souvent, mais tu sais, ton grand-père n'a pas commis, il a subi. Et il n'a jamais commis, il a toujours subi. Et ce qui était en aucun cas péjoratif, hein, loin de là, mais c'était une manière de dire que de par le fait qu'il était italien, de par le fait qu'il n'avait pas la nationalité, cela avait amené un certain nombre de difficultés qui fait qu'il avait beaucoup de mal à pouvoir agir finalement comme il aurait voulu le faire. Et donc, il subissait ce racisme, cette discrimination au quotidien.
Et il était empêché voilà, d'aller vivre pleinement, peut-être accomplir des projets...
Et elle, à travers lui, elle a vécu tout cela. Elle a vécu les moments difficiles où il fallait, tous les 10 ou 15 ans, aller à la préfecture et renouveler les papiers. Et ça avait vraiment laissé en elle une trace très forte. Elle me disait qu'elle était des semaines sans pouvoir dormir tellement elle avait peur à l'idée qu'on puisse les séparer, alors qu'il n'y avait aucune raison. Mais c'était vraiment quelque chose qu'elle avait vécu à travers lui et qui l'avait profondément marquée.
Et tu sens que ça a déclenché chez toi aussi une sensibilité pour l'être humain qui est empêché, qui est exilé, qui a toutes sortes peut-être de fragilités et qu'il faut défendre.
Oui, complètement. En tout cas, ça elle m'a ouvert et à travers elle, mon père aussi, puisque mon père était dans... lui ressemble pour cela beaucoup, elle m'a effectivement ouvert à l'importance des solidarités, à l'importance d'aller vers les autres et de tendre la main, parce qu'à un moment donné, elle a eu besoin qu'on lui tende la main, ils ont eu besoin qu'on leur tende la main, et le regard, quand elle en parlait, montrait à quel point elle avait de la reconnaissance pour toutes celles et ceux qui ne les avaient pas rejetés, mais au contraire, leur avaient tendu cette main dont ils ont eu besoin.
Alors le grand-père, donc c'est Settimio, c'est ça ?
Tout à fait.
C'est Settimio et Gabriel qui ont fondé l'entreprise familiale ?
Alors c'est très bien de le dire comme ça, parce que très souvent, comme c'est lui qui a donné le nom à l'entreprise familiale, on a tendance à minimiser le rôle qu'elle aurait pu avoir, alors qu'au fond, ça devrait s'appeler Settimio et Gabriel Tombini, bien évidemment.
C'est
parce
une œuvre à deux.
Voilà, c'est vraiment eux qui ont ensemble... qui se sont battus dans des moments très difficiles pour créer une entreprise qui est vraiment partie de rien, où ils étaient tous les deux, puis ensuite un salarié, et qui aujourd'hui, on fêtera bientôt les 80 ans de l'entreprise, qui aujourd'hui s'est particulièrement développé avec, je ne sais pas, je ne suis pas les comptes, mais je pense une quarantaine ou une cinquantaine de salariés. Et en partant effectivement de leur aventure à tous les deux et du fait qu'ils cherchaient comment vivre et ils se sont dit, lui avait un savoir-faire, ils se sont implantés tous les deux. Et où je dis qu'elle a joué un rôle très important, c'est qu'elle était là pour tout le côté administratif, pour s'occuper des finances, pour, au moment où c'était difficile, aider à ce qu'ils puissent rebondir. Et je pense qu'elle a eu un rôle extrêmement fort. Et un peu comme Gabrielle, eh bien comme Carmen, je veux dire, c'était des femmes battantes et qui ont construit chacune leur activité, qui ont construit leur vie professionnelle. Et en cela, je les admire.
Elles se connaissaient, Carmen et Gabrielle, elles se croisaient.
Ah oui,
j'imagine qu'elles se connaissaient, parce que, elles se croisaient régulièrement.
Chez nous, la famille est quelque chose d'extrêmement important. Donc oui, il y avait régulièrement des repas de famille où elles se croisaient et elles s'appréciaient totalement, bien sûr, oui.
Oui, j'ai déjà eu l'occasion via le club de NDC d'éprouver cette convivialité familiale et c'est très prégnant. Et quand tu parlais du petit café qu'on passait, c'est vrai qu'on a l'impression que dans votre famille, il y a une culture comme ça de la chaleur, de l'accueil et des moments de réunion très naturels et très fréquents.
Et j'ai cette chance, c'est que c'est des deux côtés, que ce soit, on connaît le côté de Tombigny, il y a le côté Bouledet, et que ce soit d'un côté comme de l'autre, il y a ce sens de la famille, cette valeur de la famille qui est effectivement extrêmement importante. Et je sais que Gabrielle me disait tout le temps, alors ma grand-mère Gabrielle a une particularité, c'est que ça a été elle a été fille unique, elle a eu une enfance difficile avec des parents qui l'ont rejetée, elle a été élevée par sa grand-mère, comme quoi l'importance des grand-mères dans la famille, et elle avait une admiration et un amour pour sa grand-mère qui l'a élevée.
Donc ça, elle t'en a parlé, elle t'a raconté.
Elle nous en
aussi.
A parlé, oui, elle a laissé des traces, effectivement. Elle avait écrit quelques lignes dans un cahier où elle parlait beaucoup de ce qu'avait représenté sa grand-mère, bien sûr. Et effectivement, il y avait elle a eu 10 enfants. Donc la fille unique qu'elle était, avec une famille vraiment très disloquée et où le sens de la famille malheureusement n'était pas présent, eh bien elle a fait le choix d'avoir une famille nombreuse, 10 enfants, et vraiment avec, elle me disait tout le temps, j'aurais raté quelque chose si mes enfants ne se parlaient pas. Et pour elle, le fait d'être fâchée en famille était totalement inconcevable. Et elle a entretenu cela. Et c'est vrai que les retrouvailles chez elle dans son jardin rue de la Traquette étaient fréquentes. On aimait se retrouver avec mes oncles et tantes, mes cousins, cousines. Et elle a vraiment entretenu ça de manière régulière, ce que nous faisons aujourd'hui dans ma famille, bien sûr.
Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose qui persiste, qui fait partie de l'idiolecte de la famille.
Complètement,
Et que vous maintenez, et qui vient d'elle. Qui vient
d'elle,
priori.
Complètement, oui. Oui.
Et comment ils se sont rencontrés, Gabrielle et Settimio? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, en fait, la mère de Settimio, Maria, était la voisine, encore une histoire de grand-mère, était la voisine de la grand-mère de Gabrielle. Voilà, ils habitaient en centre-ville, à Angers, et de voisines, les enfants se sont rencontrés. Ma grand-mère avait 24 ans à cette époque-là. Mon grand-père avait à peu près le même âge, je pense. Et ils se sont plu. Voilà, c'est comme ça qu'elle l'avait écrit. Il me plaisait, je lui ai plu, nous sommes mariés. Voilà.
Alors tu dis c'est comme ça qu'elle l'avait écrit. À t'entendre, on a l'impression que... Il existe des traces écrites d'elle. Elle a raconté un petit peu son parcours, en plus de te l'avoir raconté à l'oral, à travers vos rencontres, vos moments à deux. Elle a écrit aussi son histoire.
Elle avait un petit cahier chez elle, effectivement, où elle a gribouillé 24 pages avec une écriture magnifique, où dedans, elle a raconté son enfance et au moins le début de sa vie de femme. Elle n'est pas allée jusqu'au bout, mais c'est vrai que c'est très... toujours très émouvant, je l'ai lu je ne sais combien de fois, mais à chaque fois je redécouvre des petites choses et je comprends aussi le parcours qui a été le sien. Voilà. On dit souvent, dans notre famille, il y a toujours une petite pointe de chamaillerie entre nos deux familles, où on dit souvent, mon père a une enfance probablement plus, ils étaient dans un milieu plus pauvre, clairement, du côté de Gabrielle, ils se sont battus. Et du côté de ma mère, du côté Bouledet, Blin, effectivement, il y avait une aisance qui était différente. On le voit à travers les photos aussi, qu'on va retrouver d'eux, etc. Donc, c'est effectivement deux modes de vie différents. voilà, et qui peuvent impacter. Mais en tout cas, des deux côtés, il y avait vraiment ce lien familial qui était très fort.
Et toi, ce carnet, ces écrits de Gabriel, c'est aujourd'hui encore une source pour toi. Tu aimes t'y replonger, tu aimes aller t'imprégner un petit peu de ça.
Bah, il y a des occasions là, effectivement, ça m'a donné envie ce week-end de me replonger dedans et de le relire. Et pour le coup, j'ai creusé un peu, j'ai recherché des photos.
Albertine déclenche souvent ça.
Voilà, samedi matin, je vais chez l'aînée de mes tantes, Flora. Pour qu'elle me montre d'autres photos. Donc c'est toujours chouette de se replonger dans cette histoire qui nous a construit. Voilà.
Est-ce qu'il y a une photo de Gabriel que tu aimes particulièrement, que tu voudrais nous décrire, peut-être pour aussi qu'on visualise Gabriel? On n'a pas parlé un petit peu de à quoi elle ressemblait.
Alors, ben Gabriel, en fait, il y a la Gabriel que moi j'ai connue. En fait, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on avait une complicité qui fait que je pouvais lui faire un peu n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Donc, j'ai des photos d'elle avec une casquette, avec des lunettes de soleil.
Ah, des photos que tu as toi-même prises.
Voilà, que j'ai moi-même prises, adolescente. On jouait beaucoup à cela parce qu'elle était bonne patte. Quoi. Voilà.
Elle était joueuse,
voilà,
complice.
Voilà, complètement. Oui.
Et Gabrielle, ta grand-mère persiste aussi à travers le choix du prénom que tu as donné à ton fils, qui s'appelle aussi Gabriel.
Exactement.
Sans les deux dernières lettres.
Probablement que si j'avais eu une fille, à un moment donné, j'aurais pu choisir Carmen aussi pour une fille. Mais il se trouve que je n'ai eu que des garçons. Et le premier, c'était une évidence de toute façon que j'aurais garçon ou fille, un Gabriel. Voilà. Et étonnamment, je préférais pour un garçon. Mais oui, pour moi, c'était important qu'il s'appelle Gabriel.
Voilà. Il connaît aussi, j'imagine, l'histoire de sa grand-mère.
Oui, bien sûr. Oui.
Arrière-grand-mère.
Et alors, la petite anecdote, c'est que quand on a fait le choix avec son papa de l'appeler Gabriel, on lui a choisi un deuxième prénom malien par rapport à ses origines maliennes. Et on a fait le choix de l'appeler Gabriel Djibril Camara. Et ma belle-mère, en apprenant ça, dit « Pourquoi vous lui avez donné deux fois le même prénom ?» Et en fait, mon mari ne savait pas que Djibril et Gabriel, c'était la même chose. Donc, comme quoi ce prénom me hante, voilà, puisque Gabriel et Djibril, c'est pareil.
Est-ce qu'aujourd'hui, ces deux grand-mères, comment elles continuent à exister pour toi? Quelles traces elles laissent dans tes choix ou dans la vie de tous les jours?
Je dirais que... Elles m'ont montré l'image de femmes qui travaillaient, qui élevaient leur famille, qui avaient la générosité, la bienveillance. Et bien évidemment, je pense que ça m'a construit aussi. Alors, comme je le disais, toutes les discussions que j'ai pu avoir aussi avec Gabriel ont nourri mon envie de m'engager vis-à-vis des autres. Ça, c'est une évidence. Et je pense que je lui dois beaucoup par rapport à ça. Je pense très régulièrement à elle et à ce qu'elles incarnaient pour moi.
Alors, Gabriel...
et peut-être aussi, si on parle de l'enfance, il y a... ce que j'aurais pu dire de Carmen, c'est que quand j'expliquais que d'un côté comme de l'autre, il y avait cet esprit de famille, Carmen, avec la famille Bouldet, faisait qu'on allait tous les ans camper en famille avec tous les cousins, les cousines, les tontons à Pénétin, et que c'était vraiment un rituel. On passait un mois au camping de Pénétin, et là, pour le coup, on vivait avec notre grand-mère des moments extrêmement forts, parce qu'elle était avec nous, il y avait mes parents, enfin, les papas restaient à Angers et nous rejoignaient le vendredi. Mais effectivement, voilà, c'était ces moments du camping, tous en famille, où tout le monde vivait ensemble.
Une grande proximité.
Alors, peut-être ce qui différenciait Carmen de Gabriel, c'est que Carmen, elle avait un côté un petit peu plus, peut-être parce que c'était la mère de notre maman, alors elle pouvait être non pas sévère, mais en tout cas, voilà, elle avait des règles et elle aimait bien qu'on respecte ces règles-là. Donc, il y avait ce côté peut-être un petit peu plus attentive aux règles.
Discipline.
Voilà, discipline que j'ai peut-être moins eue chez ma grand-mère paternelle. En tout cas, je ne l'ai pas ressentie de la même manière. Voilà.
Et est-ce que Gabriel, je crois que ton engagement politique date et assez lointain, date de ton jeune âge. Est-ce que, Gabriel, t'as vu démarrer un peu ce parcours-là? Est-ce que vous en discutiez aussi? Est-ce qu'elle en était fière?
Alors, je pourrais plus dire si elle en était fière parce que le temps passe. Mais oui, elle l'a connue et on en a effectivement parlé, bien sûr. Oui, mais... et je lui racontais, alors peut-être l'anecdote alors qui est dans un sens inverse, mais il y avait au sein du conseil municipal, quand j'ai commencé, une de mes collègues, que j'embrasse d'ailleurs, qui s'appelle Renée Solé, qui est aujourd'hui aussi une grand-mère certainement très appréciée de ses petits-enfants. Et donc Renée s'occupait des personnes âgées, était allée chez ma grand-mère en tant qu'élue, comme elle allait chez les personnes âgées, pour passer un moment et les rencontrer. Et elle me disait, mais j'ai vu ta grand-mère et ses beaux yeux bleus qui sont magnifiques. Et elle m'en a souvent parlé, voilà. Mais oui, ma grand-mère a effectivement connu le début de mon engagement. Et je pense qu'en fait, elle n'avait pas été surprise du tout. Et voilà.
Et te connaissant, voilà. Oui. Connaissant la nature de vos discussions, c'était quelque chose de très naturel.
Oui. Tout à fait.
Et alors, on adore les grands-mères dans Albertine sur Radio G. On adore aussi quand surgit un passé encore plus lointain avec la grand-mère d'une grand-mère dont tu nous as parlé. Mais je ne résiste pas à l'envie d'avoir des précisions sur cette personne et sur son prénom. C'était quoi son
alors,
prénom?
Alors, c'était Cécile. Alors, je ne l'avais pas en tête parce qu'elle disait tout le temps grand-mère Lemaire. Voilà, c'était la grand-mère Lemaire parce que c'était la branche Lemaire de ma grand-mère. Et en fait, c'est elle qui l'a élevée pendant les premières années de sa vie. Et puis, elle a été, et je pense qu'elle utiliserait certainement ce mot, arrachée le jour où ses parents ont voulu la reprendre, mais en le subissant finalement. Et elle aurait préféré rester chez sa grand-mère où elle était très bien. Et il y a eu des allers-retours, mais elle est restée très proche de sa grand-mère jusqu'à la fin de vie de sa grand-mère.
Et elle te parlait souvent d'elle.
Elle ne nous parlait quasiment jamais de sa maman. Ouais, elle ne parlait que de sa grand-mère Lemaire. Grand-mère Lemaire, oui.
Alors Sylvia, il est déjà l'heure de mettre fin à cette conversation grand-maternelle. Merci beaucoup.
Et peut-être, parce que je m'en voudrais de ne pas le dire. Je m'en voudrais de ne pas le dire, mais si on parle des grand-mères, il y a mes arrière-grand-mères, mes grand-mères. Mais j'ai une chance incroyable, c'est que mes enfants sont voisins de mes parents et vivent une relation incroyable avec leur grand-mère Lucette, qu'ils voient tous les jours, plusieurs fois par jour, et avec qui, je pense, ils auront une complicité telle que j'ai eue avec mes grands-mères. Et c'est un bonheur pour moi de voir cette complicité.
Ouais, c'est précieux pour toi d'observer ça, cette relation est belle et proche et persiste.
Voilà.
Merci beaucoup, Sylvia, d'avoir précisé ça. Merci beaucoup aussi d'être venue rendre visite aujourd'hui à Albertine.
Merci à toi.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'Albertine sur Radio G. Et on se quitte avec un texte choisi et lu par notre invitée Sylvia Camara-Tombini.
Donc je vais juste vous lire un petit extrait de son petit cahier qu'elle avait griffonné où à ce moment-là, la famille était réfugiée à Bonnet, dans la ville de Bonnet. Un jour, le boulanger qui était mon parrain me dit « Les avions américains ont bombardé le bois du roi. Mon sang n'a fait qu'un tour. » Notre maison, comment était-elle? Nous n'avons pas pu y aller. Le lendemain, c'était défendu à cause des pillards. C'est un comble. Plusieurs jours après, il a essayé d'y aller, avec son vélo. Et quel vélo? Je ne vous ai pas dit, avant la guerre, il avait un vélo. Eh bien, les Allemands lui ont volé. Il n'était même pas fini de payer. Donc je reviens à dire, voilà, votre père parti voir la maison. Oh, la surprise, elle était démolie. Nous avions tout perdu. Pauvre Citimio qui... Tous les dimanches et jours de vacances faisait ses parpaings. Il a monté sa maison comme ça, quel courage. Quand le soir il est revenu, j'ai deviné ce qui était arrivé. Il était d'une pâleur. Pour lui remonter le moral, je lui ai dit que dans notre malheur, nous avions la chance d'être tous vivants. Une maison, ça se reconstruit.